C'est le temps de rejoindre maintenant au téléphone Catherine Rochon, entomologiste et professeure à l'Université du Manitoba. Bonjour!
Allô!
Comment ça va aujourd'hui?
Ah, ça va très bien.
Oui, on te retrouve au Québec, hein, c'est ça?
Ben oui, je suis en vacances. Visiter ma maman.
Ah, mais ça doit être bien après si longtemps d'avoir pas eu de la chance de sortir de la province vraiment, là.
Oui.
Hey, moi aussi, je suis d'origine québécoise, puis ça fait tellement longtemps que je suis pas allée. Ça se compte en années, là. Ça a pas de sens.
Ça faisait 2 ans.
Ouais, c'est ça. Hein.
Quand même.
Catherine, est-ce qu'il y a autant de guêpes au Québec qu'il y en a au Manitoba?
Ah oui.
On peut dire qu'elles sont un peu partout, hein?
Oui, il y en a vraiment partout. Les espèces qui semblent déranger tout le monde sont partout aussi, à peu près égales.
Mais on veut quand même apprendre un peu plus sur les guêpes, parce que je pense que en ce moment, il y a une grande majorité de la population qui n'aime pas du tout être autour des guêpes. Mais elles sont pas complètement mauvaises quand même. Il y a des avantages à avoir des guêpes autour dans l'écosystème. Donc, apprenons un peu plus sur les guêpes, justement. Les différentes espèces qu'on trouve, notamment au Canada.
Ben c'est ça, parce que là, je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais dire, oui, ben là, les guêpes, c'est pas juste une chose.
Ouais, c'est ça.
Fait que, les guêpes, c'est un terme, dans le fond, qui est commun, qui englobe vraiment beaucoup, beaucoup d'insectes. Mais quand on parle de guêpes, ben communément, là, on a la guêpe commune, là, la guêpe jaune ou la guêpe à taches blanches en tête. On a une image vraiment très claire de ce que c'est. Puis c'est toujours des insectes, souvent qui vont être en colonie, puis qui viennent à notre pique-nique, qui nous achalent, puis qui nous attaquent sans provocation.
Ouais.
Il semble que ce soit sans provocation. Sauf que ce groupe-là, tous ces comportements-là, c'est les espèces que j'ai nommées, ça fait partie du groupe des vespides. Les vespidés, il y a à peu près 100 d'espèces au Canada qui sont comme ça des guêpes qui sont sociales et puis qui en général là, sont des prédateurs.
Ouais, okay? Parlons de leur comportement justement. Comment ça se fait que ces guêpes-là semblent être plus à l'aise de s'approcher vers nous les humains et se mettre directement dans notre nourriture?
Ah, mais c'est à cause de leur cycle de vie, de ce qui se passe là, dans leur vie à ce moment-là. Il faut comprendre que les guêpes qui viennent à notre table de pique-nique, là, c'est la fin de leur vie, là, puis ils ont des gros, gros bouleversements. Là.
D'accord.
Ils sont dérangés.
Ouais.
Puis ça, en général, c'est des guêpes jaunes, là, ou des guêpes communes. Donc, c'est pas tous les vespidés qui vont faire ça. C'est vraiment quelques espèces qui vont le faire. Puis ce qui arrive, on va commencer le cycle de vie, dans le fond, puis vous allez comprendre.
Okay.
Au printemps, il y a seulement les reines qui ont été fécondées qui passent l'hiver. Donc, au printemps, il y a une petite reine qui va sortir de sa cachette.
Mm-hmm.
Et puis là, elle se dit, ben là, il faut que je fasse un château. Fait que là, elle va aller pour commencer un nid. Fait qu'en général, ils vont prendre du bois qu'ils vont mastiquer, ça va faire une pâte, et puis ils vont commencer à faire un nid comme ça, qui va avoir à peu près la grosseur là, d'une balle de golf.
Wow. Okay?
Puis, fait que là, la reine, elle va pondre, elle va faire des petites alvéoles dans ça, elle va pondre ses œufs, puis là, elle va s'occuper des larves. Puis ces larves-là vont devenir, dans le fond, les premières ouvrières. Donc, elles vont devenir adultes, et puis là, elles vont commencer elles-mêmes à aller chasser. Puis là, la reine va pouvoir se consacrer à pondre des œufs. Et puis c'est les ouvrières, donc c'est sa première batch de filles, là, comme je pourrais dire,
ouais,
qui va construire le nid, faire des alvéoles, puis aller chercher des insectes pour nourrir les larves.
Et donc,
puis là, ben
pendant ce temps-là, elle nous dérange pas. Donc au printemps, c'est pas là qu'on va voir beaucoup de guêpes parce qu'elles n'existent pas encore.
Non, c'est ça. Parce que ce qui les intéresse, c'est des protéines. Ce sont des prédateurs voraces. Et puis à ce moment-là, si vous êtes jardinier, c'est vos meilleurs amis parce qu'elles vont aller chercher beaucoup d'insectes nuisibles. Ce qu'ils veulent, c'est nourrir des larves, faire d'autres guêpes.
Mm-hmm.
Par contre, quand on arrive là, vers la fin de l'été, ben là, la reine qui a commencé le nid, il peut y avoir là, 6, 7, 10 000 guêpes dans le nid à la fin de l'été, mais elle a fini sa vie, la reine. Donc, elle arrête d'avoir des phéromones puis elle arrête de pondre des œufs. Elle pond quelques œufs à la fin qui vont être les futures reines et les mâles qui vont féconder. Mais là, on se retrouve avec des milliers de guêpes qui n'ont plus de raison d'être, là. Ils n'ont plus besoin d'aller d'aller chasser. Fait que là, ben, ils se vautrent dans le sucre.
c'est la débauche. C'est ce qui les motive vraiment à sortir.
Ben, c'est ça. C'est qu'ils ont, ils vont aller chercher du sucre au lieu d'aller chercher des protéines parce qu'ils n'ont plus, de larves à nourrir. Il n'y a plus de raison d'aller chercher des insectes. Donc, ils vont aller vers ce qui est facile et puis ils vont aller chercher beaucoup du sucre. Et puis là, c'est là qu'ils vont être attirés vers nos canettes de liqueurs, vers les fruits qui sont très mûrs, les choses qui sont sucrées et faciles à aller chercher. Et puis, ben nous, quand on fait des pique-niques, ben c'est facile. On leur donne un grand buffet. C'est tout à l'air libre. Mm-hmm. Donc, c'est comme ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup... Déjà, il y a eu tout l'été pour augmenter la population. Et puis là, vers la fin... Ben, ils commencent à chercher de la nourriture qui est différente. Parce que dans le fond, ils vont tous mourir.
Je peux comprendre vouloir finir sa vie en
dans
dégustant
un festin débauche.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. C'est de la nourriture facile.
Sucre.
Ouais, exactement. Donc, c'est ça qui se passe. Ils sont en fin de vie. Ils se disent, toute ma vie, il a fallu que je donne de la protéine puis que je nourrisse ma famille. Puis là, ben ma famille n'existe plus, on n'a plus d'enfants, notre mère est morte. Oh, moi, je vais aller prendre du sucre, puis je vais finir ma vie comme ça.
Wow!
OK, mettons des dates un peu, là. C'est quand est-ce qu'il commence à être dérangeant, puis c'est quand est-ce qu'il meurt? Il meurt au froid, j'imagine?
Oui, il meurt au froid. Donc, quand on a un nid, si on a gardé un nid de guêpes, dans notre cour tout l'été, puis qu'on a réussi à survivre à ça, ça sert à rien de l'enlever au mois d'octobre.
Ouais.
Attendez qu'il gèle. Parce que après ça, vous allez pouvoir l'enlever, puis vous allez pas vous faire attaquer. Mais si on regarde, là, les reines vont sortir mai, à peu près dans ce coin-là. Évidemment, ça dépend des endroits, là, mais à peu près au mois de mai, juin, ils vont commencer à faire leur petit nid. Puis ils vont quand ça va commencer à réduire le nombre d'œufs là, puis qu'ils vont commencer à chercher du sucre là, ça peut être d'habitude là, fin juillet début août où ça commence un petit peu plus, puis là vers la fin du mois d'août septembre c'est la grosse saison là.
Tu parlais tantôt là, que c'est ça, elles vont mourir dans le froid, mais est-ce que la chaleur a aussi... est-ce que la chaleur joue comme facteur dans le comportement des guêpes? Est-ce qu'elles ont plus d'énergie lorsqu'il fait chaud? Parce que nous, on a eu un été très chaud et sec. Et je me demande si ça l'a un petit peu influencé, ça l'a affecté les guêpes d'une certaine façon.
Ben, ça a influencé d'une façon parce que, comme tous les insectes, plus il fait chaud, plus leur développement va se faire rapidement.
Mm-hmm.
Donc, ils ont besoin de plus d'énergie. Les larves se développent plus vite. Ça mange plus. Donc, les colonies ont probablement grossi plus rapidement cette année. Donc, si on en voit plus, c'est très possible là, parce que il a fait chaud.
Mm-hmm. Par
contre, quand il fait très, très chaud, la majorité des insectes vont... Eux aussi, ça se peut avoir trop chaud. Quand ça monte en haut du 35 degrés, en général, il y a un petit peu, là, ça commence à ralentir. Mais ça reste que c'est un développement qui est proche du plus rapide. Là. Donc,
ouais.
À moins qu'il fasse du 50 degrés, ils vont être corrects.
On en a un peu parlé, Catherine, la semaine passée. Les guêpes jouent un rôle important dans la pollinisation. On parle aussi de prédation, qui est un... Tu disais tantôt, ils mangent des insectes dans notre jardin. Mais tu dis aussi qu'il y a plusieurs parasitoïdes. Qu'est-ce que c'est que ces différences-là?
Les parasites.
Ah. Ben oui, mais c'est pas exactement des parasites. C'est un parasite va vivre aux dépens de son hôte.
Oui.
Mais en général, le parasite ne va pas tuer son hôte parce que sa vie en dépend.
Mm-hmm.
Un parasitoïde va toujours tuer son hôte.
Oh, wow!
Donc, je vais décrire ce que c'est un parasitoïde, mais vu qu'il y a probablement beaucoup de monde qui ont vu le film Aliens, c'est basé sur le cycle de vie d'un parasitoïde. Donc là, je vais vous décrire ça, puis vous allez voir, c'est pareil comme le film.
OK.
Il y a la femelle, guêpe, qui... Puis quand je parle... je pense que c'est important de le dire là, pour votre image mentale. Les guêpes parasitoïdes, là, il y en a qui sont plus petites qu'un grain de sable. Là. On parle de moins d'un millimètre.
Oh.
Puis il y en a qui peuvent aller jusqu'à 5 cm de long.
OK.
Okay, quand on parle de diversité, là, il y a à peu près 6000 espèces au Canada de guêpes qui sont parasitoïdes.
J'aime pas ça. 5 centimètres,
c'est
bien trop gros.
C'est quand même long, là.
Ouais. Ben, ça, c'est juste la guêpe, là, son l'ovopositeur, il peut aller jusqu'à 10 centimètres, Yann.
Oh.
Mais on va parler justement de cet ovopositeur-là. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, la femelle va se trouver, par exemple, une chenille. OK? L'autre.
Oui.
Et puis là, elle va prendre son ovopositeur. Et puis, elle va... OK. On va faire ça, puis après ça, j'expliquerai les autres sortes.
OK.
L'ovopositeur va piquer la chenille. Et puis là, la guêpe va pondre un œuf dans la chenille.
Mm.
Puis là, ben dans l'œuf, la petite larve va sortir, donc elle est dans la chenille. Puis là, il y en a qui vont... Ils vont commencer, la larve de guêpe, elle va commencer à manger la chenille de l'intérieur. Mais elle va faire ça d'une façon qui va garder la chenille en vie le plus longtemps possible. Fait que la chenille, elle continue à vivre, puis elle continue à manger, puis elle continue à grossir. Puis la larve, ben, elle la mange de l'intérieur.
Mm-hmm.
Puis quand la larve est prête à sortir, ben, elle fait un trou. Puis elle sort.
Elle fait un trou par... Ben, dans Alien, c'est dans l'estomac, mais ça peut être un peu...
Ça va être un peu partout dans un autre. Là,
ouais.
Dans
et c'est comme ça que la chenille va mourir.
Puis la chenille va mourir comme ça. Parce que vers la fin, quand la larve est presque prête à faire une pupe, son cocon pour sortir, ben là, elle va commencer à manger là, ce qui est plus nécessaire à la vie parce qu'elle aura plus besoin, elle n'a plus besoin de sa chenille. Donc, elle peut la tuer, il n'y a pas de problème. Chez certaines espèces, il y a un œuf qui va être pondu, puis cet œuf-là va se multiplier. Donc, un œuf va être pondu, mais il va y avoir des dizaines de larves à l'intérieur de la chenille.
Oui, d'accord.
Et puis, vous avez peut-être vu ça des fois, si vous promenez dans un champ, des fois, il y a comme un bout de plante, puis il y a l'air d'avoir plein de petits cocons. On dirait que c'est comme du coton, là, juste
oui,
en haut.
Oui,
puis c'est,
oui.
Ça, c'est des cocons de guêpes parasitoïdes.
Oh!
Des cotésia.
OK.
Donc, elles vont toutes sortir de leur chenille, puis là, elles vont grimper, puis c'est là qu'elles vont faire leur petit cocon. Puis de ces cocons-là, c'est des guêpes qui vont sortir.
Mais c'est pas très gros, là.
Ben, il y en a qui... Non, non, celles-là sont tout petites.
Ouais.
C'est quelques millimètres. Par contre, il y en a qui sont vraiment impressionnants. Les Megarissa, par exemple, ce sont des guêpes qui pondent leurs œufs dans des larves. Mais les larves sont en dessous de l'écorce des arbres, sont dans les arbres.
Oh, OK.
Donc, elles vont être sur l'arbre et puis vont taper avec leurs antennes sur l'arbre. Puis là, ils vont dire, il y a une larve ici. Puis là, c'est elles qui ont des ovopositeurs de 6 à 10 cm. Elles vont prendre leur ovopositeur et puis elles vont aller à travers le bois jusque dans la chenille qui est dans le bois. Puis elles vont pondre leur œuf comme ça. Donc, à travers... C'est solide, ça, là.
En effet,
donc,
ben oui.
Ça va passer à travers le bois. Puis ça, ben, on en a ici au Manitoba. Ça. C'est des guêpes vraiment impressionnantes. Mais ces guêpes-là, elles piquent pas les humains. Là. Elles font peur parce qu'on se dit, mon Dieu, ça doit faire mal. Mais celles qui sont, dans le fond, là, on pourrait appeler ça le groupe des porte-aiguillons, celles qui ont un dard, ça inclut à peu près 550 espèces de guêpes au Manitoba. Mais ça inclut aussi les abeilles, puis les fourmis. Parce que les abeilles et les fourmis aussi ont des aiguillons. Donc, quand je disais là la semaine passée que, dans le fond, les abeilles, c'est des guêpes végétariennes, ben c'est ça, parce que le plus gros groupe, c'est les guêpes, puis dans le fond, les abeilles, c'est un groupe de porte-aiguillons spécial.
Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y a plusieurs guêpes qui sont pas équipées pour piquer puis faire mal. Elles sont équipées pour piquer piquer puis aller pondre. Donc,
exactement.
C'est ça, elles viendront pas comme piquer un humain si elles se sentent menacées, c'est pas leur caractéristique. Mais oui, on savait que bourdon, abeille, ça peut piquer, mais c'est différent d'une guêpe quand même.
Oui, c'est différent. Bon, il y a certaines différences qui sont un petit peu plus faciles à expliquer que d'autres, mais en gros, là, pour un entomologiste, les abeilles, ils ont des poils différents des autres guêpes.
Oui. Non, mais je parle de... OK, excuse, concentrons-nous sur la piqûre, là. La piqûre.
Oui. Ah, ben oui.
Ce que moi, je connais,
c'est
que... Une guêpe, ça peut piquer plusieurs fois, puis pas une abeille. C'est-tu un mythe, ça, ou c'est-tu vrai?
Ben c'est vrai, mais c'est plus spécifique que ça.
OK.
L'abeille domestique le dard est barbelé. Donc, quand il rentre dans la peau, il ressort pas. Donc, quand l'abeille domestique pique, c'est un sacrifice, elle va mourir.
Mm-hmm.
Les guêpes ont un dard qui est lisse, donc il peut rentrer et sortir. Donc, les guêpes peuvent piquer plusieurs fois. Par contre, les autres sortes d'abeilles, des abeilles sauvages, elles aussi ont un dard lisse.
Oh!
Donc, les abeilles sauvages, si elles décident qu'elles piquent, elles peuvent piquer plus qu'une fois.
Okay.
Et puis, des fois, il y a des guêpes, si elles piquent très fort, c'est possible que le dard reste. Même s'il est lisse, c'est possible que le dard reste.
Mm-hmm.
C'est rare, mais ça arrive quand même.
Et si ça arrive, est-ce que la guêpe meurt?
Oui.
Okay.
Oui, parce que là, à ce moment-là, c'est une partie de l'abdomen qui s'arrache.
Ah, d'accord.
Donc, ouais.
C'est tannant un peu de vivre sans une partie de ton abdomen. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut s'inquiéter si jamais on se fait piquer par une abeille puis le dard est là? Est-ce que.
Il faut l'enlever.
Ouais.
Ouais, faut l'enlever. Faut résister à l'envie que de regarder parce que il va avoir un petit peu des pulsations là, puis en général le sac à venin va être attaché encore après. Donc ça peut être, en tout cas, évidemment moi je suis peut-être pas normale, mais c'est quand même assez fascinant de voir ça. Mais le but c'est de l'enlever le plus rapidement possible, justement parce que le sac à venin va être encore attaché après le dard, donc le venin continue à rentrer.
Mm-hmm.
Et puis ça, je disais, il semble y avoir une espèce de relation. Plus le dard des guêpes ou des abeilles est court, plus le venin semble toxique. Donc, le venin d'abeille est vraiment quand même plus toxique que plusieurs venins de guêpes. Donc, si on a une piqûre, que ce soit de guêpes ou d'abeilles, on enlève le dard si c'est une abeille domestique. Et puis, la meilleure chose à faire, c'est évidemment de nettoyer l'endroit, puis c'est de la glace. Ou une pâte qui est faite avec du bicarbonate de soude. C'est les deux choses qui vont être le plus efficaces pour soulager les piqûres. Et puis, que ce soit une abeille ou une guêpe, si vous avez une enflure qui est vraiment sévère, si vous avez des démangeaisons, des étourdissements ou de la difficulté à respirer, c'est important d'aller voir un médecin parce que il peut avoir une allergie. Puis ça, c'est possible. Il y a des gens qui ont une allergie aux guêpes. Puis à ce moment-là, on peut donner un antivenin qui va beaucoup aider.
Wow!
Tu as parlé de fourmis aussi. Tu parlais de fourmis avec ce genre de petits dards-là aussi? Des fourmis piquent de la même façon?
Oui, c'est la même chose. Fait que les abeilles, les guêpes puis les fourmis, ça fait partie de l'ordre des hyménoptères. Donc ça, sont toutes reliées. Et puis, dans le fond, il y a certaines guêpes qui n'ont pas d'ailes, qui ressemblent vraiment beaucoup à des fourmis. Puis des fois, quand on voit des fourmis qui sont ailées, parce que les fourmis, quand elles se reproduisent, les mâles et les femelles ont des ailes, puis là, ils font des vols nuptiaux.
Oui.
Donc des fois, on voit des fourmis avec des ailes, ça ressemble quand même pas mal à des guêpes. Donc c'est tout dans le même groupe. Et puis, dans celles qui ont des aiguillons, les fourmis rentrent là-dedans. Il y a certaines espèces où l'aiguillon va être diminué.
Ouais.
La même chose pour les abeilles. Ils seront pas capables de l'utiliser pour se défendre, mais ils l'ont pareil.
Ils l'ont quand même.
Ouais.
Il y a quand même certains avantages avec les guêpes dans le sens qu'ils vont aider à réduire la population d'insectes qui sont nuisibles. Et je suis curieuse de savoir c'est lesquels, justement.
Presque tout.
Oui,
mais définitivement.
C'est un prédateur, là.
Oui, c'est des prédateurs qui sont quand même de façon en gros, là, sont assez généralistes. Par contre, il y en a qui vont être un petit peu plus spécifiques. Ça va être surtout des chenilles ou surtout des araignées, parce que il y en a qui vont être spécialisés sur des araignées, qui vont ou des sauterelles aussi. Et puis, mais il y en a qui vont. Si on parle des guêpes parasitoïdes, par exemple, il y en a beaucoup qui vont attaquer les pucerons. Tout ce qui est les insectes, souvent les insectes nuisibles vont se retrouver en grande quantité. C'est une des raisons pour qu'on les trouve nuisibles. Et puis, à ce moment-là, ça va être assez facile pour les guêpes d'aller les rechercher. Donc, vraiment, là, il y a beaucoup de contrôle de chenilles, de sauterelles, de pucerons qui vont se faire là, avec les guêpes.
Mm-hmm.
On les considère, les guêpes en général, là, on considère que ce sont des insectes auxiliaires aux cultures. Donc, il y a des gens qui vont les trouver nuisibles, évidemment, quand ils viennent nous déranger. Mm-hmm. Mais en général, là, on considère que les grands groupes des guêpes, là, c'est vraiment des insectes qui sont très, très, très utiles. Et puis là, nous, ceux qu'on remarque, c'est ceux qui sont en colonie, comme je disais, qui sont sociaux. Mais la grande majorité vont être des espèces qui sont solitaires. Donc, le nid, c'est une femelle avec sa progéniture, mais pas en grande colonie sociale.
Oh, wow.
Puis ceux-là, ben ils vont moins défendre leur nid que les espèces sociales. Donc, parce que ce ne sont pas des grandes colonies. Donc, ils sont, sont moins agressifs, puis on les remarque moins parce qu'ils viennent pas, ils sont pas attirés par le sucre, ils sont pas attirés par nos affaires. Mm-hmm. Donc, on les remarque pas.
Est-ce que tu vas jusqu'à conseiller qu'on s'occupe pas d'un nid si on trouve un nid sur notre propriété? C'est quoi les règles de base là, pour là-dedans?
Ben, moi, je dirais la sécurité avant tout.
Okay?
OK. Évidemment, si... parce que les guêpes, comme ça, les vespidés, là, vont... En général, vont se faire des nids à des endroits parce qu'ils veulent la chaleur, ils veulent de la protection, ils veulent rester au sec. Donc, évidemment, ça souvent ça va être dans des arbres, mais ça peut être aussi en dessous de la galerie ou sur le côté de la maison, proche du toit.
Mm-hmm.
Donc, les endroits où nous on veut être couverts, devant la porte. Parce que quand il pleut puis tu cherches ta clé, tu veux pas que te faire pleuvoir dessus.
Ouais.
Ben ça c'est parfait pour la guêpe aussi. Elles vont réagir aux vibrations. Donc s'il y a un nid qui se fait proche d'un endroit où vous êtes souvent,
mm-hmm.
ben il faut l'enlever parce que là, je veux dire, elles vont protéger leur nid là. Elles sont agressives pour protéger le nid. Même si vous leur faites pas de mal, elles vont percevoir un danger et elles vont attaquer. Donc si vous faites attaquer, il faut l'enlever.
Ouais.
Mais si vous le voyez puis qu'il est loin, puis que les guêpes vous dérangent pas, puis que vous pouvez faire votre vie, puis que vous êtes pas en danger de vous faire attaquer, ben moi je mettrais l'énergie ailleurs. Par contre, l'important c'est de trouver les nids tôt. Donc de commencer au mois de juin à regarder, à observer, est-ce que vous voyez des guêpes qui se promènent autour. Une fois de temps en temps, peut-être passer un petit peu de temps, voir où est-ce qu'elles vont, parce que c'est beaucoup plus facile d'enlever un nid qui est petit, qui a peut-être une cinquantaine d'individus,
mm-hmm.
que le nid à la fin de la saison, quand là, ça dérange, puis qu'ils sont des milliers.
Comment est-ce qu'on peut se débarrasser d'un nid de la meilleure façon possible? Je veux dire, est-ce qu'on est capable de simplement la déplacer ailleurs ou est-ce qu'on la détruit? Parce que si c'est pas nécessaire de tuer toute une colonie, vaut mieux pas le faire.
Ben, Yann n'est pas convaincu, hein?
Non, Yann veut tuer le nid.
Yann, il se dit, où est ma torche?
Ouais, exact.
Si le nid est petit, c'est possible de le faire soi-même. On peut avoir un insecticide qui est fait pour ça. Il faut se protéger, évidemment, parce que les guêpes, elles vont pas se laisser faire. Par contre, c'est mieux de le faire une fois que la nuit est tombée, parce que là, les guêpes vont être dans le nid, elles vont être beaucoup moins actives. Mais, évidemment, si on travaille la nuit, qui fait noir, nous, on a besoin de lumière.
Oui.
Et puis, mettre une lampe de poche La lumière, ça va les réveiller puis ça va les activer. Donc, on utilise un filtre rouge. Si vous avez de la lumière qui est rouge, nous, on peut voir, mais ça va pas les alarmer. Donc, elles vont être moins actives comme ça. Et puis, il y a différentes façons, mais on peut utiliser un insecticide. En général, les nids ont une ou deux entrées. Donc, on met tout de suite l'insecticide à l'entrée et puis on met un sac de poubelle qui n'a pas de trou, hein, pas troué,
bien sûr.
autour du nid. Et puis là, on ferme le sac rapidement, puis on met tout ça au congélateur pour au moins 2 jours. Mais dépendant de où est le nid et puis de la grosseur du nid, si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire, c'est vraiment important de vous pouvez appeler un exterminateur, appeler les professionnels qui vont le faire, parce que avoir des piqûres de plusieurs dizaines de guêpes, pour certaines personnes, ça peut être dangereux. Mm-hmm. Et puis même si c'est pas dangereux pour votre vie, c'est vraiment pas plaisant.
Ah, j'imagine, même rien qu'une, c'est pas plaisant. Ouais, imagine.
Exactement.
10, 12,
donc
même,
c'est possible. Ouais.
Mais ça se déplace pas. Le nid ne se déplacerait pas.
Non, le nid ne se déplace pas. Et puis les guêpes vont le protéger. Donc on peut pas le déplacer. C'est pour ça qu'il faut, si on décide qu'on n'en veut pas, ben il faut prendre notre décision tôt.
Ouais.
Ouais.
D'accord.
Catherine Rochon, j'ai quelques questions en rafale, si tu le veux bien.
Ben oui.
J'ai lu et mes enfants arrêtent pas de me dire « Non, tue pas de guêpes ici parce que ça va attirer plein d'autres guêpes. » Alors, est-ce que c'est vrai que si on tue une guêpe, ça sécrète quelque chose qui fait en sorte qu'il y a plein d'autres guêpes qui vont arriver au même endroit pour défendre la guêpe qu'on a tuée?
Oui, les enfants ont raison.
Wow!
parce que c'est un phéromone d'alarme. Donc, quand une guêpe se sent menacée, elle va sécréter une phéromone, qui est dans le fond un parfum. Là. Mm-hmm. C'est un signal odorant. Et puis ça, les autres guêpes vont tout de suite dire « Oh! Alarme! » Donc là, elles vont aller parce que ça va être comme s'il y a eu une attaque. Mm-hmm. Et puis, donc, ça va leur dire « Il faut attaquer. » Donc, si on écrase la guêpe qui est fatigante, si on l'écrase proche de nous, les autres vont venir. Et puis, elles vont arriver fâchées, là.
Oui.
Ouais. OK.
Elles s'en vont en guerre.
Alors, peu importe si on la tue vite ou si on se dit elle n'aura pas le temps de sécréter des hormones, ou une fois qu'elle est écrasée, elle sécrète quelque chose. OK.
Ouais.
Est-ce que c'est vrai que certaines abeilles peuvent nous reconnaître peut-être nous attaquer?
Ah, ben ça, c'est super intéressant parce qu'il y a des expériences qui ont été faites sur la reconnaissance faciale des guêpes. Et puis, dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils voulaient savoir si les guêpes pouvaient se reconnaître entre elles, puis si elles reconnaissaient des morceaux de visage ou les visages au complet.
Mm-hmm.
Et puis, il y a certaines espèces qui semblent reconnaître les visages comme nous, on reconnaît les visages, c'est-à-dire comme un ensemble. Si t'as juste le nez, tu sauras pas c'est qui. Puis, il y a certaines guêpes qui sont comme ça, qui reconnaissent les autres guêpes du nid par l'ensemble du visage, pas juste par une affaire. Et puis là, ben ils ont essayé avec des photos d'humains, essayé de voir, et puis il semblerait qu'ils reconnaissent les faces non de pas guêpes d'une façon similaire. Mais cette étude-là où il y avait des photos d'humains, là, il y a quand même pas mal de débats là-dessus. Là. Mais pour la reconnaissance faciale entre guêpes, quand même, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont du cerveau de rien.
Ouais.
Puis, ils utilisent l'information de la même façon que nous.
Ouais.
C'est fascinant.
J'avoue. Est-ce que c'est vrai que s'il y avait un nid à un certain endroit, puis on ne l'avait pas détruit, puis là, les guêpes sont mortes, puis ont gelé, mais le nid reste encore là, est-ce que ça empêche d'autres guêpes de venir proches pour faire un autre nid? Parce qu'il considérera le territoire occupé.
Oui, bien, pas vraiment. J'essaie de trouver de la littérature là-dessus. Puis, parce que, évidemment, il y a des gens qui vendent des faux nids, puis on dit, ben, si vous mettez un faux nid ou si vous laissez le nid là, ben, les guêpes ne reviendront pas.
Ouais.
Les guêpes ne vont pas réutiliser le même nid. Okay? Mais on voit quand même assez souvent en nature des nids qui vont être assez proches un de l'autre ou des nouveaux nids qui vont être proches de vieux nids abandonnés. Donc, il n'y a pas beaucoup d'études scientifiques publiées à ce sujet-là. Mm-hmm. Mais juste si on regarde dans la nature, ça arrive assez souvent qu'il y a des nids qui sont proches. Donc, de le laisser là, ça va pas empêcher d'autres d'arriver. Si les guêpes retournent pas proches, c'est peut-être parce qu'il y a des choses qui ont changé dans l'environnement, mais en général, si c'est un bon spot une année, ben ça risque d'être un bon... Pas loin de là va être un bon spot, mm-hmm, pour les années d'après.
Ouais.
À ce moment-là, ça reste un endroit à vérifier. Quand on fait le tour de la maison, là, puis qu'on vérifie au mois de juin,
ouais,
ces endroits-là, ce seraient des bons endroits à surveiller.
D'accord. Dernière question, elle nous vient d'un auditeur qui nous a écrit, qui vient juste de nous écrire sur notre machine à texto. Ça dit, j'ai avalé une guêpe, mais je ne me suis pas fait piquer dans la gorge, mais j'ai été malade du ventre. Alors, est-ce que le venin provoquerait de la nausée ou de la diarrhée?
C'est une bonne question, ça. Ben, la réponse, c'est que je ne sais pas.
OK.
Je sais pas exactement comment le venin fonctionne. Alors, à ce moment-là, c'est un petit peu difficile. J'aurais tendance à penser que le venin comme tel serait dans le fond digéré, là, ou que j'ai pas l'impression que ce serait le venin qui ferait quelque chose. Par contre, l'abeille comme telle ou la guêpe plutôt, telle, pas mastiquer rien, là, il semble que ce serait un irritant assez phénoménal dans un estomac, mais je sais pas.
Okay.
Je sais pas.
Okay.
Je sais, mais ouf! J'ai tellement de questions.
Ben là, c'est un texto, alors je peux pas.
Ouais. Non, mais écoute, c'est.
Mais c'est intéressant de voir qu'il
y a une histoire là.
Oui, il y a une histoire là facilement. Catherine Rochon, merci énormément.
OK, bye.
Bye.